U zpráv a dalšího vysílání Rádia Praha vás vítá Martina Bílá. Ministrem zahraničních věcí by se mohl stát Tomáš Petříček. Kvůli nedostatku krmiva budou zemědělci snižovat počet chovaných zvířat. Velký knižní čtvrtek představí 15 novinek. Novým kandidátem na post ministra zahraničí je Tomáš Petříček z ČSSD. V poslanecké sněmovně to řekl předseda sociální demokracie Jan Hamáček. Dodal, že dopis, ve kterém ho navrhuje, už dostal premiér Andrej Babiš z hnutí ANO. Petříček je teď na ministerstvu prvním náměstkem a kandiduje i v komunálních volbách. ČSSD tak ustoupila ve sporu o nominaci europoslance Miroslava Pocheho, kterého do čela ministerstva zahraničí odmítl v červnu jmenovat prezident Miloš Zeman. TOP 09 navrhne ve středu poslanecké sněmovny přijmout usnesení, ve kterém by vyzvala vládu k přijetí 50 sirotků z uprchlických táborů. Podle první místopředsedkyně TOP 09 Markéty Pekarové Adamové by se jednalo o symbolické humanitární gesto. Strana tak navazuje na iniciativu europoslankyně Michaely Šojdrové z KDU-ČSL, kterou odmítá a kritizuje premiér Andrej Babiš. Podrobnosti přineseme po zprávách. Prezident Miloš Zeman jako první představitel České republiky vystoupí s projevem v izraelském parlamentu Knesetu. Během své listopadové návštěvy se setká s hlavními izraelskými představiteli. V Jeruzalémě také otevře Český dům, ve kterém budou společně sídlit agentury Czech Trade a Czech Tourism a budou se v něm konat kulturní akce. Vysoké školy získají příští rok 26,6 miliardy korun. Je to o 2 miliardy více, než bylo v původním návrhu rozpočtu. Dohodli se na tom zástupci rektorů Ministerstva školství a Ministerstva financí. Část peněz, které školy získají navíc, půjde lékařským fakultám, aby se zmírnil hrozící nedostatek lékařů v Česku. Zemědělci budou snižovat počet chovaných zvířat kvůli nedostatku sena, slámy i siláže. Vyplývá to z průzkumu Zemědělského svazu České republiky, který odhaduje až 10-tisícové zmenšení. Nedostatek sena je kvůli letošnímu suchu hlavně ve středních Čechách a Pardubickém kraji. Zemědělci tam vyprodukovali jen polovinu toho, co obvykle. Cena sena se proto podle předsedy svazu Vladimíra Píchy zvedla o 2/3 na 4 000 korun za tunu. Méně je také slámy, v celorepublikovém průměru o 20%. Program Nová zelená úsporám nově nabídne dotace v maximální výši 550 tisíc korun na úsporné rekonstrukce domů uskutečněné své pomocí. Zájemci mohou příspěvek získat od 15. října. Nově lze získat dotaci například na výměnu nevyhovujících kamen bez nutnosti zateplení domu nebo na venkovní stínící techniku. Podzimní velký knižní čtvrtek nabídne 18. října tradičních 15 novinek napříč žánry. Na pultech knihkupců se objeví beletrie, krimi, populárně naučná i historická literatura, knižní rozhovor, biografie nebo knížky s tematikou letectví. V rámci velkého knižního čtvrtku vyjde například kniha Za oponou války Jakuba Santo, bývalého zpravodaje České televize na Blízkém východě, čtvrtý díl série humoristických románů o poslední aristokratce nebo kniha Pavla Kosatíka Jiný TGM. A ještě krátce o středečním počasí. Očekáváme oblačno až polojasno, ojediněle zejména na jihu území a na horách přehánky nebo bouřky. Teploty 24 až 28 stupňů Celsia.
Faits et événements en République tchèque.
Bonjour à toutes et à tous. Après ce point complet de l'actualité tchèque avec Guillaume Narguet, on passe au sujet du jour. Un monument dédié à Jan Palach se trouvait à Prague depuis 50 ans, à la vue de tous, mais sans que personne ne le sache. Retour sur cette histoire assez incroyable. Direction l'Institut français de Prague ensuite, qui propose une exposition consacrée aux Tchèques de Paris, une exposition photo. Et puis à Prague encore, l'Institut ReLife lutte contre l'addiction aux nouvelles technologies. Ce sera le sujet de notre rubrique Panorama. Bonne écoute de ce programme. « Longtemps, la ville de Prague n'a pas eu de monument digne de ce nom pour commémorer le sacrifice de Jan Palach, qui en janvier 1969 s'est immolé sur la place Wenceslas afin de protester contre l'occupation de son pays par les troupes du pacte de Varsovie. Pourtant, des documents récemment découverts ont révélé, à la surprise générale, qu'un grand pylône en acier situé à quelques mètres de la place avait été secrètement dédié au jeune étudiant par son concepteur, l'architecte Karel Prager. C'est une histoire on ne peut plus tchèque, pourrait-on dire, alors que l'on célèbre cette année les 50 ans de l'invasion soviétique de la Tchécoslovaquie, que l'on se souvient également de la résistance passive de la population à l'occupant et que l'on se remémore les nombreux slogans et l'humour des gens ordinaires pour faire face aux troupes armées dans la dignité et la non-violence. À la fin des années 60, alors que l'architecte Karel Prager est chargé du projet d'agrandissement du bâtiment de l'Assemblée fédérale, à côté du musée national, il décide en effet de dédier un immense pylône d'acier placé devant l'édifice à la mémoire de Jan Palach, mort quelques mois auparavant. Au nez et à la barbe des autorités communistes, ce monument s'élève donc depuis près de 50 ans au cœur de la ville de Prague. La redécouverte de cette dédicace secrète est due aux travaux de rénovation du pylône confié au sculpteur Antonín Kašpar.
Une bonne partie du pylône était abîmée depuis le pied jusqu'à 6 mètres de hauteur. Quand on a commencé à monter l'échafaudage, il a fallu que je trouve les dessins des fondations du monument. J'ai reçu une boîte remplie de documents et j'y ai trouvé des documents où Karel Prager l'appelait clairement pylône de Palach. Il y a un autre papier datant d'après la révolution de velours où il dit qu'il espère la réhabilitation complète du monument. Je pense que Karel Prager avait tellement peur qu'on découvre sa dédicace qu'il a préféré cacher le fait que le pylône rendait hommage à Jan Palach. Ça a été tellement bien caché que l'on a découvert qu'aujourd'hui alors qu'il est décédé.
À Prague, il existe aujourd'hui quelques monuments consacrés à Jan Palach, l'un au pied du musée national, dédié à ce dernier, et à Jan Zaïts, deuxième étudiant qui s'est sacrifié de la même manière quelques temps après. Il a fallu attendre l'an 2000, soit 11 ans après la révolution de velours, pour qu'un tel hommage voie le jour. Le second monument, ce sont deux sculptures monumentales de l'architecte américain John Hayduk, installées en 2016 sur la place Jan Palach à Prague, en face de la faculté des lettres où il étudiait. Enfin, un masque mortuaire réalisé par le sculpteur tchèque Olbram Zoubek a été installé dès 1990 sur le bâtiment de la faculté, mais il n'est pas un monument à proprement parler. Antonín Kašpar.
Praha byla prostě léta kritizována za to, že nemá...
Prague a été longtemps critiquée pour ne pas avoir un monument digne de ce nom qui corresponde réellement à l'importance du sacrifice de Jan Palach. Personne ne pouvait se douter qu'à quelques mètres de l'endroit où Palach s'est immolé se trouvait un monument de 30 mètres de haut. C'est probablement la plus grande sculpture existant à Prague.
Aujourd'hui, le pylône ainsi que le bâtiment appartiennent au musée national qui a installé ses quartiers dans les locaux pendant les travaux de restauration de son bâtiment historique. C'est aussi le musée national qui a engagé la rénovation du pylône sans se douter de son histoire. Michal Sterlik, directeur adjoint de l'institution.
Une fois que les travaux au musée national seront terminés, nous souhaitons faire en sorte de terminer le monument pour qu'il corresponde au projet de Karel Prager.
Car en effet, une sculpture de Miloš Hlupáč devait être à l'origine installée sur le pylône, une sculpture intitulée La Flamme et dont il n'existe plus aujourd'hui que le modèle en plâtre. Vendredi dernier, l'Institut français de Prague a inauguré l'exposition « Les Tchèques de Paris » du photographe tchèque Karel Steiner. Pas moins de 45 portraits étaient exposés, soit plus d'une décennie de travail. Diplomates, scientifiques ou encore étudiants, tous se sont prêtés au jeu des photographies. Une immersion dans l'intimité de cette communauté discrète mais attachée à sa culture. Corentin Nicolas était au vernissage.
Parti de Tchécoslovaquie en 1968, Karel Steiner n'est pour autant pas inconnu à Prague et certainement pas des amateurs de photos. Il y a 11 ans, le photographe américano-tchèque avait exposé certains de ses clichés dans la capitale tchèque. Depuis, l'artiste n'a pas chômé et a poursuivi son travail de prospection dans les quartiers de Paris.
Je photographie des portraits de Tchèques maintenant en ralenti, c'est-à-dire de temps en temps que je trouve quelqu'un bien dans son métier, quelqu'un exceptionnel, quelqu'un doué. Je lui pose la question si il ou elle voudrait être photographié. Comme ça, le projet continue, s'agrandit, mais doucement. la structure de ce projet documentaire photographique est faite. Mais pourquoi pas, j'ajoute de nouveaux gens quand je le trouve.
Dans cette exposition, les personnalités du quotidien en bleu de travail posent fièrement aux côtés de personnalités publiques comme le skipper Milan Kolaáček ou l'ancien ambassadeur tchèque en France et récent candidat à la présidence tchèque Pavel Fischer. Tous représentent un modèle de réussite sociale dans leur pays natal. Même si les décors comme l'établissement de sciences politiques ou la tour Eiffel imposent le cadre français, de nombreux éléments rappellent l'attachement fort à leur pays natal.
Je pense que les Tchèques en France, cette fois on appelle cette exposition les Tchèques à Paris, mais c'est pareil, ils sont fiers des Tchèques, ils sont certainement pas amers de la Tchécoslovaquie. Ils participent à des événements. Comme il y a la fête nationale tchèque, ils sont souvent invités à l'ambassade, ils participent à des événements en son tchèque à Paris. Oui, ce n'est pas rejet de le passé, mais c'est quelque chose en plus. C'est des gens qui sont riches de nouvelles expériences, mais ils ne rejettent pas d'où ils viennent.
Cette exposition est également une belle page historique, mention spéciale à Karel Kurzweil, cofondateur de la carte téléphonique à puce prépayée, qui était le lien privilégié entre diaspora et population restée au pays. Aujourd'hui, les modes de communication ont bien changé, tout comme les mentalités, une jeune population désormais plus apte à pérenniser les liens avec la République tchèque, selon Karel Steiner.
Les mentalités ont changé parce que, bon, en 2004-2005, c'était déjà après la chute du communisme, mais c'était quand même cette génération marquée par les événements de 1968, l'occupation de la Tchécoslovaquie par l'Union soviétique. C'était des gens qui étaient marqués par ça. Ils ont échappé le pays. Souvent, ils sont partis avec rien, avec une valise. Et maintenant, la mentalité des étudiants, des jeunes, est différente. Ils savent qu'ils peuvent voyager comme ils veulent, souvent plusieurs fois par an. Le coût de l'avion, par exemple, a baissé. Ça coûte 10% de ce que ça coûtait à 20 ans avant. On n'a pas le sentiment que c'est seulement en sens unique et qu'on ne peut pas revenir.
Quant à la suite de ces projets, Karel Steiner semble optimiste.
Ce qui est intéressant, que depuis cette installation de ce projet photographique, les Tchèques à Paris, ici à Prague, au Institut français de Prague, le directeur m'a suggéré que je réfléchisse si les Français en République tchèque sont photographiés. Peut-être ça peut devenir un jour mon nouveau projet. Et ça va me permettre de passer plus de temps en République tchèque.
Pour l'heure, l'exposition Les Tchèques de Paris se tient toujours jusqu'au 3 novembre 2018 à l'Institut français de Prague.
Le stress, l'incapacité d'entretenir de bonnes relations avec les autres, un mauvais état de santé, l'addiction, même si la plupart d'entre nous ne peuvent plus s'imaginer une vie sans les nouvelles technologies, leur usage excessif peut causer toutes sortes d'effets négatifs. Les plus menacés sont les enfants. À Prague, l'Institut Real Life Internet and Technology Recovery Institute s'efforce de prévenir ce genre de problème en proposant un service de conseil pour tous ceux qui se sentent dépassés par les technologies, ainsi que différents programmes préventifs pour les écoles et pour les particuliers. Un sujet d'Elžbieta Rušková.
Panorama.
Panorama.
Get offline to be on life. Déconnecte-toi pour pouvoir vivre. C'est la principale devise de l'Institut ReLife, un centre unique consacré au traitement et à la prévention des dépendances aux nouvelles technologies et au monde virtuel. Sa fondatrice, la psychologue Zuzana Pavelcová, nous décrit ses fonctions principales.
Nous sommes le seul établissement orienté vers cette problématique en République tchèque, mais nous sommes assez uniques également à l'échelle européenne. Il existe bien sûr des institutions qui s'intéressent à l'addiction aux nouvelles technologies, mais il s'agit dans la plupart des cas d'institutions qui traitent des addictions en général. De plus, nous ne nous limitons pas uniquement au traitement de l'addiction, car quoi que l'on puisse puissent penser qu'il ne s'agit pas d'un problème si important. En effet, seul 1% de la population adulte souffre d'une addiction au monde virtuel, ce chiffre étant légèrement plus élevé si l'on considère les adolescents. Notre objectif principal est donc de soutenir la prévention dans ce domaine et d'apprendre aux gens à utiliser les nouvelles technologies avec prudence. Nous proposons un service de consultation psychologique, nous organisons des conférences et des séminaires et nous nous efforçons d'informer le public à travers les différents médias.
C'est une grande chose. Et puis, bien sûr, nous essayons de faire une éducation aux médias quand il y a l'occasion.
L'Institut Relife a été créé en 2016 par deux psychologues et une économiste. Les trois femmes ont ainsi voulu dénoncer le fait que quand on parle des dangers liés aux nouvelles technologies, on parle toujours de la cybercriminalité, du cyberharcèlement ou de la sécurité sur Internet, mais jamais des effets néfastes que ces technologies peuvent avoir pour la santé mentale de l'individu. Zuzana Pavelcová raconte son expérience.
J'ai travaillé dans le domaine de la santé publique avec ma collègue. Nous avons découvert lors de divers examens psychologiques et de psychothérapie à quel point le monde virtuel influence l'état psychique et la vie de nos patients. C'était quelque chose dont nous n'avons pas parlé à l'université. Nos enseignants ne considéraient pas cette problématique comme importante. Mais tout d'un coup, notre expérience était différente. Le quotidien de nos patients étaient envahis par ce monde numérique. Ils avaient souvent un problème d'identité, mais nous ne savions pas comment les traiter. C'est la raison pour laquelle nous avons commencé à aborder ce thème de manière plus systématique.
La psychologue ajoute cependant que cela ne veut en aucun cas dire que l'usage des technologies est purement négatif pour la santé mentale. Pour Zuzana Pavelcová, l'Institut essaye tout simplement de montrer les deux facettes de la problématique.
En 2016 encore, les technologies ont été présentées dans la sphère publique uniquement du point de vue positif. On a parlé de leurs avantages, de la digitalisation des écoles et de leur rôle futur dans le développement et dans l'éducation. Mais personne ne s'est intéressé à leurs effets négatifs pour la santé physique et psychique. L'un des objectifs de notre institut était donc d'ouvrir ce débat dans la société.
Rozšířili. Afin d'approfondir leurs connaissances dans ce domaine, les psychologues ont commencé à collaborer avec le professeur Manfred Spitzer, un neuroscientifique et expert en addiction aux nouvelles technologies qui enseigne à l'université d'Ulm en Allemagne. Mais comment donc définir une addiction aux nouvelles technologies? Une question à laquelle même les chercheurs ne savent pas répondre à l'unisson. Récemment, l'Organisation mondiale de la santé a pour la toute première fois classé l'addiction aux jeux vidéo sur la liste des maladies et des problèmes de santé. Quant aux autres types d'addiction aux nouvelles technologies, la frontière entre un usage normal et un usage excessif reste assez floue. Zuzana Pavelcová.
Pour moi, le problème survient au moment où les technologies ne servent plus de moyens de travail ou d'auto-éducation et commencent à nous dépasser, à endommager, voire même à se substituer à nos relations avec les autres. Souvent, les gens que je rencontre se rendent compte de leurs problèmes liés à l'utilisation excessive de technologies, qu'il s'agisse de réseaux sociaux, d'Internet, de jeux vidéo ou de shopping en ligne. Ils savent que ces technologies troublent leur vie. Des adultes ont des problèmes de couple, des adolescents ont des problèmes avec leurs parents, etc. Ils essaient donc de réguler l'usage de ces technologies, mais ils n'y arrivent pas.
L'Institut Relife propose des ateliers et des conférences sur différents thèmes liés à la problématique, ainsi que des thérapies destinées aux familles et aux particuliers. Malgré leurs efforts pour toucher également de jeunes adultes qui ont déjà grandi avec la nouvelle technologie et pourraient donc être menacés par leurs effets négatifs, ce sont surtout les parents d'adolescents qui s'adressent à l'Institut Relife pour y chercher de l'aide. D'après Zuzana Pavelcová, il est en effet plus facile de s'apercevoir d'un problème chez les autres, d'autant plus s'il s'agit d'un enfant. Pour la psychologue, une autre partie très importante de son travail est la prévention chez les élèves. C'est la raison pour laquelle Relife organise des séminaires dans différentes écoles à Prague. Et la demande est énorme.
Nous essayons de pousser ces enfants, à l'aide de différents jeux, à s'apercevoir de la face cachée de ces nouvelles technologies, à se rendre compte de ce que ces technologies leur apportent et ce qu'elles leur prennent en revanche, à réfléchir comment ils peuvent tout seuls réguler l'usage des technologies dans leur temps libre. Nous avons par exemple un jeu qui s'appelle « Dessine ton addiction ». Les enfants sont en groupe et ils essayent de dévoiler les symptômes de l'addiction aux nouvelles technologies. Ensuite, ils dessinent à quoi peut, selon eux, ressembler une personne souffrant de ces symptômes. Ensuite, ils peuvent par exemple mettre en place des règles qui pourraient les aider à ne pas devenir dépendants. Ce travail avec les enfants est très amusant car ils sont très créatifs et intéressés par ce sujet. Ils savent en effet qu'il s'agit d'un phénomène de notre époque qu'ils ne comprennent pas encore très bien, mais qu'ils voudraient apprendre à gérer.
À l'avenir, l'Institut souhaite organiser des ateliers similaires dans d'autres villes de République tchèque. Mais comme l'explique Zuzana Paveltova, ces séminaires, même s'ils sont très populaires auprès des enfants, ne peuvent servir que de tremplin et ne peuvent pas se substituer au rôle de la famille.
Il est très important que les parents commencent par eux-mêmes. Leurs méthodes fonctionneront ensuite pour leurs enfants. Et les enfants perçoivent en effet la problématique de l'usage des technologies de manière très transparente. Et ils disent souvent « Maman les utilise tout le temps, papa aussi, pourquoi devrais-je apprendre à me réguler ?» Ce sont les parents qui sont donc clés, qui sont l'alpha et l'oméga. Ni l'école, ni aucun système scolaire ne peuvent remplacer cet exemple au sein de la famille.
Depuis août dernier, les psychologues préparent donc aussi des séminaires destinés aux parents. Ceux-ci apprennent par exemple comment ils peuvent eux-mêmes réguler l'usage des nouvelles technologies, comment fixer des règles pour leurs enfants, comment parler avec les enfants des risques des nouvelles technologies ou comment reconnaître les premiers symptômes d'un éventuel problème.
Notre émission s'achève peu à peu. Merci de l'avoir suivi. Vous le savez, tous ces sujets, vous pouvez les retrouver évidemment sur notre site internet, le www.radio.cz/fr, sous forme d'articles, mais également en podcast. Merci également de nous être fidèles. Bon vent. Ahoy.